Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui a été préparée, comme chaque jour, par Perrine Suquet avec Charles de Luermoz. Et c'est Marc Bisset aujourd'hui qui est à la réalisation technique de cette heure du crime. On va aller très loin en arrière dans le temps. Je vais vous raconter l'histoire d'un triple meurtre, un meurtre à coup de serpe, un meurtre horrible, des meurtres horribles survenus dans la nuit du 24 au 25 octobre 1941. Ça s'est passé dans un château du Périgord, le château d'Escoire, propriété à l'époque de la famille Girard. Il y avait 4 personnes présentes pendant la nuit du drame dans ce château. Un jeune homme à la vie d'ailleurs plutôt chaotique, Henri Girard, 24 ans. Son père, Georges, sa tante, Amélie, et la domestique de la famille, Marie Soudex. Et au matin du 25 octobre, Henri Girard appelle les secours. Son père, sa tante et la bonne sont retrouvés morts, comme je l'ai dit, sauvagement assassinés donc à coups de serpe. C'est un véritable carnage. Et le jeune homme va devenir très vite le suspect numéro 1. Il va être accusé de ce triple meurtre et, coup de théâtre, il sera acquitté en 1943 en 10 minutes par les jurés de la cour d'assises qui viennent d'assister à son procès. Cet homme va changer de nom. En 1950, il va publier le premier best-seller de l'après-guerre, Le salaire de la peur. 2 millions de lecteurs quand même, s'il vous plaît, sous le nom de Georges Arnaud. Il a pris le prénom de son père et le nom de jeune fille de sa mère. Et ce livre va être adapté au cinéma par le grand cinéaste Henri-Georges Clouzot, qui va d'ailleurs obtenir la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1953. Et c'est cette histoire qui se trouve au cœur d'un roman qui vient de paraître aux éditions Julliard. Il est signé de Philippe Janet-Hadin. Bonjour. Et bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est un plaisir et je suis sincère.
Oui, et alors, votre place est normale dans une émission qui s'appelle L'heure du crime parce que vous êtes un récidiviste. Ouais. Vous avez déjà publié un livre sur Bruno Sulac, qui était le roi de l'évasion, un voleur qui avait une personnalité absolument extraordinaire. Vous êtes intéressé ensuite dans un autre livre, La petite femelle, à Pauline Dubuisson, une jeune femme dont la vie a basculé le jour où elle a tiré à coups de pistolet sur le garçon qui était son fiancé et qui voulait la quitter. Et puis là, on vous retrouve avec ce roman. Alors, 648 pages, je crois. Non,
633, n'exagérez pas.
633, oui, mais enfin, vous avez tenu le compte quand même. Le roman s'intitule évidemment La Serpe, parce que c'est l'arme du crime, mais vous allez bien au-delà du simple fait divers. C'est que derrière l'histoire de ce triple meurtre, il y a un homme que tout le monde va appeler Georges Arnaud, mais en fait c'est Henri Girard, et vous êtes passionné pour la vie extrêmement riche et pleine sur le destin de cet homme, on peut dire. Est-ce que vous pouvez d'abord, on viendra après au côté fait divers et au côté meurtre, nous dire mais comment vous êtes arrivé dans cette histoire et comment vous avez décidé de la raconter à vos lecteurs?
Alors c'est un drôle de chemin, il y a beaucoup de voies pour arriver à un livre, mais là c'est vraiment... Ça commence très loin du Périgord et des massacres à la serpe. Ça commence devant la maternelle, en face de chez moi, ouais, dans mon quartier. Je me lie d'amitié avec le père d'un ami de mon fils à la maternelle, qui s'appelle Emmanuel Girard. Et puis, comme souvent dans les quartiers à Paris, voilà, on se fréquente un peu. Et à chaque fois que ma femme et moi nous allions dîner chez lui, il me disait « il faut absolument que tu racontes la vie de mon grand-père ». Mais quand je vais boire une bière au bistrot d'en bas, on me dit, si jamais je te racontais la vie de ma tante, tu as le bon cours assuré.
Oui, d'accord, oui.
C'est tous les jours. Donc je dis, ah oui, ah bon, qui était ton grand-père? Alors il me dit, c'est l'homme qui a écrit Le salaire de la peur. Moi, qui consacre pourtant ma vie à la littérature, j'aurais été incapable de dire que Georges Arnaud avait écrit Le salaire de la peur. Je dis oui. Je me dis, c'est un film, un chef-d'œuvre de Clouzot, qui doit être adapté d'un sous-roman de gare, un peu piteux, bon bref. Ouais. Et il me dit, mais mon grand-père...
Oui, qui avait Yves Montand dans
Yves Montand et Charles Vanel, voilà, ouais, chef d'œuvre reconnu du cinéma.
Prix d'interprétation, 53, pour le film.
Et il me dit, mais tu sais, mon grand-père, vraiment, c'est une vie très romanesque. Il a été milliardaire, ensuite clochard, puis de nouveau très riche. Il a combattu l'injustice toute sa vie, il a mené des combats politiques terribles. Et à chaque fois, je lui disais, c'est une vie trop grande pour moi, trop forte, trop profonde. Moi, j'aime les petites choses, les petites anecdotes, les faits divers, les choses comme ça. Et pendant 10 ans, à chaque fois qu'on allait dîner, je disais à ma femme, tu vas voir que Manu va encore nous parler de son grand-père. Et boum. Et puis, il y a 2 ans et demi, il me dit, au fait, j'ai oublié de te dire, je ne sais pas comment, il a pu oublier de me dire ça pendant des années. Mon grand-père était accusé d'avoir massacré à la serpe toute sa famille et les gens croient encore maintenant que c'est lui. Là. Dans ma tête, bing, je me dis ça, voilà, c'est ce qu'on appelle un petit dérapage.
Ça vous intéresser, là, voilà, oui.
Et donc je dis, ah, voilà, tu m'intéresses. Donc je rentre chez moi, je creuse un peu, je me documente. Grâce à Internet, on peut avoir accès à des archives, à des vieux journaux, etc. Ouais. Et au bout de 2 mois, après avoir acheté tous les journaux possibles et les livres qui étaient consacrés à l'affaire, je dis, écoute, Manu, malheureusement, je ne vais pas pouvoir écrire sur ton grand-père parce que c'est une évidence. Il a tué toute sa famille. Je ne vais pas écrire un livre pour dire que ton grand-père a massacré toute sa famille pour de l'argent. Puisque, évidemment, le mobile du crime... Alors, il faut rappeler peut-être enfin qu'il était le seul héritier, que c'était un sale gosse, vraiment ce qu'on appelle le gosse de riche, le fils à papa, qui est capricieux.
Qui n'arrêtait pas de demander de l'argent.
Qui demandait de l'argent tout
père,
le temps.
À son père, à sa tante, à tout le monde dans la
très
famille.
Très colérique, très... Ouais. Voilà. Il a emprunté l'arme du crime au voisin la veille.
Ouais.
Le château est fermé de l'intérieur. Là, je me suis dit, là, moi, vraiment, ça me passionnait parce que je me suis dit, on dirait du faux, quoi. On dirait du Agatha Christie.
Il y a un côté mystère de la chambre jaune.
Incroyable, c'est un vieux château. En plus, c'est en octobre 41, sous l'occupation. Il pleut, le château est sinistre, la région est lugubre. Ils sont 4 à l'intérieur, ils ferment toutes les portes et le matin, il y en a 3 qui sont massacrés.
Voilà, et il dit, j'ai rien entendu. Alors, on va comprendre pourquoi, évidemment. Alors, moi, on va faire une première pause dans l'émission et après, on va prendre le temps d'abord de raconter ce qui s'est passé dans cette fameuse nuit, qu'on se mette un peu dans la peau des enquêteurs. Après, on se mettra dans votre peau, Philippe Jaénadin, parce que vous êtes transformé en Columbo, finalement.
Le petit Columbo du dimanche.
Ah ouais, mais enfin, vous avez loué une voiture, vous êtes parti dans le pays. Périgord, vous avez essayé d'abord de voir à quoi ressemblait ce château, de retrouver éventuellement des gens qui avaient gardé la mémoire de cet événement, voire même qui auraient peut-être pu être témoins de quelque chose. Et voilà, et ça donne un livre absolument fantastique qui s'intitule « La Serpe » qui vient de paraître aux éditions Julia. On se retrouve dans un tout petit instant.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
L'invité de l'heure du crime, Philippe Jaénadin, qui publie aux éditions Julien La Serpe, c'est un roman. Alors, on va en parler 2 secondes pour qu'on comprenne, parce que c'est une histoire vraie aussi. Et vous, en tant que romancier, vous mettez votre nez dans une histoire vraie. Et le personnage principal de votre livre, c'est quelqu'un qui a vraiment existé.
Alors, le mot roman sur la couverture du livre, il y a 2 raisons à cela. Mais je tiens à dire d'abord que tout ce qui concerne... Georges Arnaud, l'enquête, le crime, les rapports de police, etc. C'est aussi près que possible de la réalité historique. J'ai essayé de respecter vraiment très scrupuleusement ce que j'ai trouvé dans le dossier d'instruction que j'ai lu, relu et re-relu. Ça s'appelle roman tout simplement parce que d'abord il y a une construction, c'est-à-dire que moi je pars d'un matériau de... réel, et puis après, bon, il faut en faire un objet un peu littéraire. Il faut faire
on dit souvent de monsieur ou madame tout le monde, c'est un personnage de roman celui-là, ben, encore là, en faut-il écrire le roman.
Voilà, c'est ça. Hein, voilà. Ouais, c'est ça. Et puis, je me mets en scène, moi, c'est-à-dire qu'au début du livre, je prends ma petite voiture de location et je pars vers le Périgord. Donc, toute cette partie-là, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais en tout cas, ça peut légitimer le mot de roman sur la couverture.
Bien sûr, et puis vous dites ce qui se passe dans votre tête, les questions que vous vous posez, les hypothèses que vous passez en revue, et il y a de quoi faire avec une histoire aussi riche que ça, à la fois avec l'histoire du triple meurtre que avec l'histoire personnelle d'Henri Girard, donc dont on va beaucoup parler dans cette émission. Alors d'abord, le jour du drame, la nuit du drame. Après, on verra dans quelles circonstances tous ces gens se sont retrouvés. Mais enfin, réunion de famille au château d'Escouart. Il y a donc ces 4 personnages dans le château, ce jeune homme de 24 ans, son père Georges, qui à l'époque est fonctionnaire pour le gouvernement de Vichy.
À Vichy, oui.
Bon, et puis la tante Amélie.
Hein, une vieille fille. Ouais.
Vieille fille, bon, qui a du bien, comme on dit aussi. Bon, l'argent est près de ses sous, mais enfin bon, elle donne beaucoup d'argent de temps en temps aussi à ce garçon. Et puis, alors peut-être la victime collatérale de l'affaire, allez savoir, c'est la domestique, la bonne, comme on disait à l'époque, de la famille. Dites-nous tout ce qu'on sait. On le sait parce que Henri Girard a été interrogé après les meurtres par la police, par les gendarmes, et il a raconté comment s'était passée la soirée.
Voilà, c'est le seul survivant, le seul témoin. Pas de chance pour lui, c'est aussi le suspect, le coupable idéal. Hein, s'il y a vraiment eu un coupable idéal un jour, c'est lui. Donc il y a déjà quelque chose d'étrange, c'est qu'il n'avait rien à faire là particulièrement. Il dit qu'il est venu pour un peu parler à son père qui était à Vichy. Il a convoqué son père, il a insisté pour que son père vienne. Donc c'est lui qui a réuni tout le monde, la tante Amélie, elle s'appelle. Elle était en vacances au château. Mais lui, Henri Girard et son père, normalement, ne devraient pas être là. Donc il convoque tout le monde dans le même endroit. Et donc ce qu'il raconte, c'est... Alors ils ont reçu assez bizarrement cet après-midi-là, il y a eu beaucoup de monde, il y a eu des voisines qui sont venues prendre le thé, il y a eu des couvreurs, trois couvreurs zingueurs qui sont venus réparer des choses, il y a la sœur de la bonne qui est venue aussi dire bonjour, enfin l'après-midi il y a eu pas mal de monde, mais à partir de 19h disons je crois, ils sont tout seuls, les quatre dans le château, et Henri Girard raconte, nous avons mangé comme d'habitude à 19h30 à la même heure, nous avons un peu discuté ensuite, nous sommes allés nous coucher après avoir fermé toutes les portes et toutes les fenêtres, tout le château est fermé, les gendarmes constateront qu'il n'y a pas d'effraction. Il va se coucher dans une chambre, c'est très étrange parce qu'ils dorment tous dans l'aile droite du château et lui choisit d'aller se coucher tout au bout de l'aile gauche, au premier étage, c'est-à-dire très loin, ce qui lui permettra de dire ensuite qu'il n'a pas entendu.
Je n'ai rien entendu.
Et donc, selon sa version à lui, il se réveille le matin à 9h, il se débarbouille en sifflotant, il descend pour aller prendre son petit déjeuner et il trouve les cadavres atrocement massacrés parce que vraiment...
C'est un carnage. Hein.
Oui, dans le dossier d'instruction, il y a les photos, évidemment, d'époque. Je suis assez robuste, mais je vous assure que ça met un coup. Et donc, il ouvre la porte et il crie « au secours, au secours ». Voilà. Et donc, évidemment, les gendarmes et tous les voisins... se disent quand il y a quatre personnes dans un endroit fermé de l'intérieur et qu'il n'y a qu'un survivant et en plus qui a tout intérêt, enfin qui hérite de tout, le mystère ne semble pas très épais. Quoi.
À qui profite le crime, quoi. En fait,
c'est la
base de toute enquête et en tout cas et de tout bon roman policier. Si bon, alors il faut dire maintenant que il y a une enquête quand même. Il y a des gendarmes viennent, il y a des constatations. Et on interroge ce garçon, mais on interroge aussi les gens qui sont arrivés le matin attirés par ces cris. Et les gendarmes vont recueillir des informations qui vont quand même les conforter dans l'idée que peut-être ce garçon est au cœur de l'affaire. Il y a quand même tous ces cadavres qui sont là, il y a des tas de gens qui rentrent dans le château, qui sortent. Bon, lui va au piano dans le salon. Et joue Tristesse de Chopin.
Ouais, il a vraiment une attitude pour le moins étrange. C'est-à-dire que d'abord, il commence par offrir des cigarettes aux gendarmes. Qui veut une cigarette ? Il a une petite bouteille d'eau de vie. Il propose un verre d'eau de vie.
Voilà, il en prend pas mal lui-même.
Il boit. Il va s'installer au piano. Il joue. Alors, on a dit à l'époque que c'était la marche funèbre.
Oui.
En fait, non. Vérification faite, c'est Tristesse de Chopin, qui est un morceau connu parce que Gainsbourg l'a repris avec sa fille. Donc, alors, ça ne veut pas dire qu'il est coupable, mais enfin, c'est une attitude très étrange. Voilà.
Alors, après, les gendarmes, il y a cette histoire de chambre qui est très éloignée, à l'autre bout du château. C'est pas sa chambre habituelle, mais en plus, on va constater que c'est la seule chambre dans le château, alors ce qui n'est pas tout à fait exact, parce que vous avez mené votre enquête et vous avez trouvé des éléments très intéressants de contre-enquête, mais pour l'instant on est dans l'enquête. Cette chambre, d'abord on n'entend rien de ce qui se passe ailleurs, mais elle est près d'un compteur électrique à partir duquel on peut couper l'électricité dans le château. Et les enquêteurs vont penser très rapidement... parce qu'ils essayent de voir comment s'est passé le meurtre, comment se sont passés les meurtres, et ils se disent, l'assassin a coupé le courant, Et il a assassiné dans le noir, finalement, ces personnes qui... Alors peut-être qu'il a coupé le courant pour qu'elles aillent se coucher plus tôt, mais peut-être qu'il a coupé le courant pour venir ensuite les égouiller, quoi.
Oui, parce qu'en fait, lui, ça, quand on l'interroge juste après la découverte des corps, sa première version, c'est « Nous avons mangé jusqu'à à peu près 9h, 9h30, nous sommes restés dans le salon jusqu'à 10h30 et je suis allé me coucher à 11h ». Il y a un voisin, un habitant d'Escoire, qui dit à la police, non, moi je suis passé devant le château à 9h30, tout était éteint, il n'y avait pas une lumière, ça m'a surpris, parce que normalement c'est pas éteint à cette heure-là. Ouais. Et après ça, les gendarmes effectivement se rendent compte que dans sa chambre se trouve, assez, de manière assez étrange, hein, mais se trouve le disjoncteur général du château. Donc ils supposent qu'il a éteint la lumière, que eux, ne se disant, bon, bah, il n'y a plus de lumière, on va se coucher, ils se sont couchés et il a pu les massacrer à sa guise ensuite.
Alors après, on va revenir sur le côté mystère de la chambre jaune, parce que, comme vous l'avez dit, on n'a pas constaté de traces d'effraction, mais ça va être au centre beaucoup plus tard du procès. On va juste ajouter avant la pause un petit élément, comme dans tous les bons romans, il faut un peu de suspense, et Dieu sait s'il y en a dans La Serpe, dans votre roman, Philippe Jaénada, La Serpe, justement, on va s'apercevoir que Henri Girard et son père ont fait quelques travaux dans le parc et qu'il fallait couper des petits arbres, bon, de la végétation, et que pour cela, Henri Girard a emprunté une serpe au gardien du château. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, mais ça va être vraiment au centre aussi de l'accusation, bien sûr.
RTL aime la musique.
Des standards.
Mais aussi des nouveautés. We are from the north. We came
from the south. We are the nation. Et des découvertes.
Quand les souvenirs s'en mêlent. On aime la musique sur RTL.
RTL. Première radio de France.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Les mystères de la vie de Georges Arnaud, qui s'appelait Henri Girard en réalité, qui a pris ce pseudonyme de Georges Arnaud en empruntant le prénom de son père Georges et le nom de famille de sa mère Arnaud pour écrire ce qui va devenir le premier best-seller de l'après-guerre, 1950, 2 millions de lecteurs, Le Salaire de la peur, l'histoire de ces camionneurs qui évidemment payés, très mal payés, mais qui pour être mieux payés vont prendre des risques insensés en conduisant un camion qui transporte de la nitroglycérine avec évidemment le risque à quasiment chaque minute que ça se termine en lumière et en fumée, leur histoire. Bon. Et Georges Arnaud, on va l'appeler comme ça quand on parle de Salaire de la peur, savait de quoi il parlait parce que après la guerre et après avoir hérité de sa famille, puisqu'il avait été acquitté en cour d'assises, il a dilapidé pas mal sa fortune et lui-même n'avait plus de sous. Vous vous racontez toute cette partie de la vie aussi. Hein. Et il est parti bourlinguer en Amérique du Sud.
Oui, parce qu'on lui avait dit, un ami à lui un peu farfelu, lui avait dit au Venezuela, il y a des émeraudes par terre. Donc tu te baisses, tu ramasses des émeraudes, tu fais fortune. Et lui a réussi quand même à dilapider une fortune assez considérable. Hein, quand il a été acquitté, il a donc hérité de sa famille, qui est une famille très ancienne, les Grattet du Plessis. Enfin, vraiment, ils avaient plusieurs immeubles à Paris, à Saint-Cloud, des terres dans la Beauce, ce château à Escoire. Bref, il a hérité de millions qu'il a claqué en deux ans, à peine deux ans.
Il aimait bien faire la fête.
Et puis, il y avait chez lui, dans les tiroirs, il y avait les billets et les gens qui passaient chez lui.
Oui, il disait, vas-y, serre-toi.
Voilà, il prenait des poignées. Oui.
L'argent, ça sert à ça, quoi, finalement.
Donc, il a tout dépensé en deux ans. Il s'est retrouvé ruiné, mais complètement ruiné. Ouais. Entre-temps, il s'était marié. Il avait eu deux enfants. Il a abandonné tranquillement sa femme et ses deux enfants qui avaient 6 mois et un an et demi. L'un des deux étant d'ailleurs le père de mon ami que j'ai rencontré devant la maternelle. Et il est parti en Amérique du Sud faire fortune. Le résultat était exactement inverse. Il est revenu sans chaussures, sans dents. Sans vêtements, complètement ruiné.
Et c'est là où un agent littéraire va lui dire « Tu devrais raconter tes aventures, etc. » Et il va écrire Le Salaire de la peur, quand même.
Sur des morceaux de papier récupérés, comme ça. Parce qu'il n'avait vraiment pas un sou, il n'avait pas de quoi manger. Ouais. Il mettait, la fille qu'il a rencontrée à l'époque disait « On mettait la machine à écrire au clou ou son pantalon. » C'est-à-dire qu'ils avaient deux choses, c'était son pantalon ou la machine à écrire. Donc, il écrivait pendant 2 semaines. Ensuite, il pouvait se promener un peu avec son pantalon pendant 2 semaines. Et puis résultat, voilà, il est apporté chez un excellent éditeur qui s'appelle Julia.
Et voilà, je ne l'avais pas dit encore, mais effectivement.
Et puis bah, il a failli avoir le prix Goncourt. Puis, mais en tout cas, ça a été un gros succès.
Quoi. Alors maintenant, flashback, on revient donc en 1941, parce qu'il y a cette histoire de Serpe qui est au cœur de tout. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez choisi ce titre, évidemment. D'abord parce que c'est un instrument terrible et parce que c'est un carnage, comme vous l'avez rappelé. Alors cette fameuse Serpe, effectivement, Henri Girard va aller la chercher chez les gardiens, oui, les gens qui sont à la fois des cultivateurs, enfin des paysans, mais qui sont aussi les gardiens du château, et qui ont besoin, évidemment, pour affûter leur... d'abord, d'avoir des instruments comme des serpes ou des faux, et aussi la meuleuse pour affûter cet instrument. Et on va lui prêter la serpe, mais tout le monde va dire, cette serpe, quand on lui a prêté pour couper les bois, elle était complètement pleine de rouille, et le lendemain, quand on va la trouver, l'arme du crime, elle est très très bien affûtée.
Oui, elle a manifestement été aiguisée. En tout cas, la femme du couple de gardiens, déjà, elle dit qu'il lui a emprunté la serpe pour une raison complètement idiote. Il dit, on a une serrure bloquée au premier étage, oui. Je voudrais débloquer la serrure, prêtez-moi une serpe. Elle dit, mais une serpe. Parce que alors, je ne sais pas si les gens qui écoutent, on confond souvent, à cause d'Astérix, à cause de la serpe d'or, on confond souvent avec une faucille, en fait.
Oui.
Mais une serpe, moi j'en ai acheté une sur eBay, une vieille. C'est un énorme instrument, c'est très lourd, on dirait un hachoir de boucher plutôt. Hein. Donc évidemment, ça ne peut pas servir à ouvrir une porte. Il dit, mais je m'en fiche, donnez-la moi quand même. Ouais. Et donc voilà, et deux jours plus tard, tout le monde est massacré, la serpe est retrouvée apparemment aiguisée, et la femme des gardiens dit, oui, c'est lui qui me l'a emprunté. Et lui dit, non, mais je l'ai emprunté pour, je voulais couper des petits sapins.
Oui, puis il y avait un clou dans un mur,
je voulais
un instrument. Enfin, ça paraît tout à fait bidon comme réponse.
Oui,
il faut dire que, voilà, il ne cède pas lui-même, hein, j'ose dire, dans ses interrogatoires. Bon, il y a ça. Et il y a un autre élément, et après on va parler du procès, c'est-à-dire que, donc, bon, les enquêteurs, ça ne fait pas un pli, quoi. C'est lui qui a fait le coup.
Et pour être honnête, pour n'importe qui, si vous ou moi nous étions trouvés là, on aurait dit.
C'était
évident,
votre cas,
quoi.
Au début, puisque vous dites à son petit-fils, écoute,
je suis désolé, mais
que ton grand-père est un assassin. Ouais. Enfin, bon, voilà.
Non, vraiment, c'est on se dit, pour une fois, l'enquête va être simple.
Voilà, parce que d'autant plus qu'on a dit qu'il n'y a pas de trace d'effraction. Mais les enquêteurs qui font leur boulot, finalement, vont trouver que si on pourrait entrer par effraction, mais sans que ça se voit, finalement, par la fenêtre, une sorte de vasistas qui donne sur des toilettes, ils vont dans cet endroit-là. Et là, ils vont mettre, en tout cas, alors je ne sais pas si ça se retrouve dans le rapport des enquêteurs, mais qu'il n'est pas possible que quelqu'un ait ouvert ces deux fenêtres parce qu'elles sont liées ensemble par une sorte de matelas de toile d'araignée, quoi, en gros.
Hein. Alors là, moi, c'est une
chose... c'est un point fondamental de l'histoire.
Très, très important. Ouais. Mais c'est une des choses qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, ou l'araignée à l'oreille, c'est que, en fait, je me suis rendu compte en creusant et en cherchant un peu que cette histoire de toile d'araignée n'est apparue qu'au moment du procès.
Et voilà.
En fait, on n'en parle pas du tout deux ans avant. Donc le crime, c'est 41, le procès, c'est 43. Au procès, en 43, toute une ribambelle d'inspecteurs, de policiers, de gendarmes viennent dire on n'a pas pu entrer par cette fenêtre parce qu'on a tous constaté qu'il y avait des toiles d'araignée. Mais j'ai cherché, j'ai essayé de remonter dans les premiers rapports, etc. Et je me suis rendu compte qu'en fait, personne ne parlait de ces toiles d'araignée. Et c'est là que je me suis dit, il y a peut-être quelque chose quelque part qui cloche, il faudrait creuser plus.
Mais les gendarmes disaient aussi qu'ils avaient essayé d'entrer par effraction avec un pied de biche au même endroit, non ça,
qu'ils avaient essayé.
Et que, alors, ils avaient réussi, mais au bout d'une heure et demie d'effort et tout. C'est très important de garder ça en mémoire parce qu'on va faire une pause très vite. Et puis, maintenant. Et ensuite, après, on va prendre le temps vraiment de parler du procès. Parce qu'on ne l'a pas dit encore, mais Henri Girard, 24 ans, accusé en cour d'assises d'un triple meurtre, il risque une guillotine. C'est la peine de mort quasiment assurée. Son défenseur s'appelle Maître Maurice Garçon, c'est un ténor du barreau, et en plus, il était un ami intime de Georges Arnaud, l'une des victimes. Et il dira dès le début du procès, en s'adressant aux jurés, « Comment pouvez-vous imaginer que je veuille prendre la défense d'un garçon qui aurait tué mon meilleur ami ?» Ça a certainement été très important d'en gérer, mais Maître Maurice Garçon avait plus d'un tour dans son sac et on va en parler ensemble dans un instant.
Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL.
Et là, eh ben, on va repartir en 1941 et surtout maintenant en 1943 avec mon invité Philippe Jaénada, qui est un peu journaliste et beaucoup romancier, hein, on peut le dire comme ça. Oui, mais vous avez fait un travail aussi, alors on peut dire qu'entre le journaliste et le policier, quoi, finalement.
Oui, moi je me suis vu plutôt...
En Colombo.
Voilà, parce que ça me faisait plaisir, ce sont mes héros, Hercule Poirot, Colombo. Donc je me voyais plutôt comme ça.
Il a loué une bagnole, une voiture, direction le Périgord pour voir à quoi ressemblait le château. Enfin, vous racontez ça en détail dans le livre et ça vaut son pesant de surprises aussi, parce que vous avez plein de surprises et vous avez fait des rencontres intéressantes. Alors là, on va à Périgueux, parce que c'est devant la cour d'assises de Périgueux que Henri Girard va être jugé. Il risque la peine de mort pour ce triple assassinat. Il est défendu, on l'a dit, par Maître Maurice Garçon. Et je voudrais que vous me parliez de Maurice Garçon, parce que vous avez retrouvé des documents exceptionnels pour faire ce livre qui concerne cet avocat, ce qui fait que vous avez pu pratiquement reconstituer la stratégie qu'il a employée au cours de ce procès, qui a débouché, rappelons-le, sur un acquittement, et pas n'importe quel acquittement, 10 minutes de délibération du jury.
Alors, Maurice Garçon, on peut être clair, c'est un génie, quoi. Je pense que c'était le meilleur avocat de l'époque qu'Henri Girard dont il a pu s'octroyer les services parce qu'il était devenu riche. Mais je pense même que c'est un des plus grands avocats de tous les temps, quoi. C'est-à-dire que c'était un homme à la fois plein d'humanité et puis aussi de ruse, de rouerie.
Oui, il était très rusé, parce que raconter son attitude au cours des procès, pas que de celui-là. Hein. Au début, il a l'air de même pas connaître bien le dossier. Il y a des gens qui viennent témoigner qui sont à charge contre son client.
Ils s'en désintéressent.
Ils s'en désintéressent complètement. Ils n'ont pas de questions à poser.
Il a compris, c'est ce que je dis dans le livre, il a compris dans un film, par exemple, l'important, c'est la fin. C'est-à-dire c'est que à la fin, si la fin est éblouissante, quand on sort, on va le conseiller à ses amis. Oui. Si la fin est décevante... Voilà. Et lui, il a compris que le plus important, c'était les dernières heures.
C'est comme ça qu'on arrivait à convaincre un juré, quoi, à faire basculer.
Exactement, un jury. C'est-à-dire que je pense qu'il donnait un spectacle, en fait, puisqu'il sait que ce ne sont pas des professionnels qui jugent, ce sont des spectateurs. Hein, là, en l'occurrence, 6 jurés à cette époque-là. Ouais. Et il sait qu'il faut les convaincre dans les dernières heures. Mmh. Et il y a quelque chose de très précieux, c'est que quand Maurice Garçon est mort, son fils a légué toutes ses archives aux Archives nationales. Ouais. 11 000 dossiers, il a eu 11 000 clients. Et il gardait tout. Et dans le dossier Henri Girard, il garde ses brouillons, les brouillons de sa plaidoirie, tous les courriers qu'il échange avec son client, avec le président du tribunal, avec... je dois à l'honnêteté de reconnaître que c'est pas moi qui ai découvert cette chose en premier. C'est Guy Penaud que vous avez reçu.
Oui, qui est ancien policier qui avait mené l'enquête, je crois, à l'époque. Non, policier qui s'était intéressé à l'enquête.
Intéressé à l'affaire. Puis il a écrit un livre qui s'appelle Le triple crime d'espoir.
Oui, absolument, on l'avait reçu il y a quelques années ici.
Voilà, d'ailleurs, dans ce livre, il est en faveur de la culpabilité. Enfin, lui, il pense que le coupable est Henri Girard. Ouais. Et bref, mais en tout cas, il a trouvé en allant dans ses archives cette chose assez incroyable, qu'il y a une correspondance avant le procès entre le président du tribunal et Maurice Garçon, dont on pourra reparler, mais qui met un peu de flou, un peu de doute sur le verdict.
Ceux qui ont considéré, on va le dire tout net, ceux qui ont considéré que cet acquittement était une erreur judiciaire à l'envers et que Girard aurait dû être condamné, s'appuient sur cet échange de lettres parce que Maurice Garçon aurait facilité le retour dans le giron du ministère de la Justice de ce président, donc qui lui devait quelque chose. Quoi.
Oui, voilà. C'est ça. C'est-à-dire que le président avait été envoyé à Limoges parce qu'il avait été mêlé à l'affaire Stavisky. Il écrivait à Maurice Garçon en lui disant « Intervenez pour moi auprès des instances ». Et Maurice Garçon lui disait « Mais bien entendu. Et j'espère que mon client sera acquitté et qu'il ne... Voilà. » Bref, et ce verdict de 10 minutes dont vous parliez tout à l'heure, 8 ou 10 minutes sur les journaux, c'est absolument incroyable, inconcevable. C'est-à-dire que les jurés ne peuvent pas passer 8 minutes en salle de délibération sans que le président du tribunal leur dise « Bon d'accord, vous pensez tous qu'il est innocent, mais réfléchissez quand même, discutons et tout ». Là, 8 minutes... En 8 minutes, les jurés ressortent.
Voilà. Et il est acquitté. Ouais. Alors, maintenant, je renvoie vraiment tout le monde à votre livre parce que les pages que vous consacrez à ce procès d'assises sont absolument formidables. On est dedans, on a l'impression d'être l'un des jurés, finalement, ou l'un des journalistes qui assistent au débat. Mais il a des bottes secrètes, Maître Maurice Garçon. Et à un moment, il va demander que la cour se déplace, que le tribunal, ça se fait d'ailleurs, toute la cour d'assises se déplace pour vraiment se rendre compte des lieux, comment est disposé le château, on visite les pièces, etc. Et puis il les amène finalement, mais ça je vais vous laisser le raconter, il les amène à un moment, tout le monde, le tribunal, les magistrats, mais aussi les jurés bien sûr, devant un endroit en disant voilà, c'est là que les gendarmes n'ont pas réussi, avec des efforts qui ont duré pourtant plus d'une heure et demie, avec un pied de biche, à rentrer dans le château. Et tour de passe-passe, ou simplement prodigieuse intelligence de l'avocat, qu'est-ce qu'il fait ?
En fait, oui, c'est un coup de génie, parce que donc, c'est pour décrire un petit peu, c'est une fenêtre qui donne, une petite fenêtre qui donne sur des WC désaffectés, avec des volets, mais Henri Girard a dit, et puis les gens le savent, que ces volets, on peut les crocheter de l'extérieur. Il y a une petite anfractuosité en dessous, et on peut les crocheter. Et c'est primordial, parce que si c'est possible, ça veut dire que quelqu'un a pu rentrer dans le château. Si ce n'est pas possible, ça veut dire qu'Henri Girard est le coupable, puisque les gens ne traversent pas les murailles, les assassins ne sont pas des passe-murailles. Voilà. Les gendarmes disent qu'ils ont essayé, avec un pied de biche, avec une barre de fer, qu'ils ont mis des heures, etc. Et Maurice Garçon arrive devant ce volet et dit « Donnez-moi un petit morceau de bois ». On lui donne un petit morceau de bois et tac, il fait ouvrir le volet et dit « Voilà la preuve qu'on peut rentrer dans ce château depuis l'extérieur ». Ça, mystère, est-ce qu'il s'est entraîné avant ? Est-ce que, enfin, moi, je connais la réponse,
venu,
mais...
Dites, il est dû aller faire un tour au château le matin,
pour
peut-être.
S'entraîner un petit peu.
Oui, bon, mais...
En tout cas, les jurés qui sont présents lors de ce transport de la cour au château, les jurés se disent, on nous a dit hier toute la journée qu'il était impossible d'ouvrir ses volets, on vient de voir de nos yeux un homme les ouvrir en 3 secondes et demie, on nous a menti. Donc l'accusation, finalement, est-ce qu'on doit lui faire confiance autant que ça ? Pas sûr, puisqu'apparemment, on peut entrer par cette voie-là.
Alors, on a très peu, je m'aperçois là, en vous écoutant, qu'on est pris par l'histoire, donc on parle très peu de votre propre parcours sur les lieux, parce que vous êtes allé donc à Périgueux. Il faut quand même savoir aussi, ça a joué contre lui, contre la personnalité d'Henri Girard, est tellement particulière, on va dire, que, il a un peu C'est la mauvaise réputation, quoi, parce que d'abord, la veille du jour où il va au château, il s'arrête à Périgueux, il dort dans un bordel.
Oui, lui bon, dira parce qu'il n'avait pas trouvé d'hôtel.
Oui, voilà, bon, donc voilà. Alors les gens disent, oui, mais quand même, qu'est-ce que c'est que ce garçon
Parce qu'il y a des choses comme dans tous les faits divers, moi c'est pour ça, et je pense que vous aussi, Jacques, c'est pour ça que j'aime les faits divers, c'est que c'est pas juste un crime et des coups de serpe, il y a des choses beaucoup plus profondes. Et là, par exemple, il y a quelque chose d'un niveau très intéressant, c'est que c'est à la fois, donc lui, les Parisiens. Et c'est l'opposition entre les Parisiens et les gens de la campagne.
Bien
c'est
sûr.
L'opposition entre les riches et les pauvres, entre les châtelains et les métayers ou les villageois. Lui est quelqu'un de bohème, on disait à l'époque, mais c'était une insulte. Maintenant, bohème.
Après, on dira les Zazou au moment de la libération.
On dit
de la
qu'il
France,
est farfelu parce qu'il se met sur le perron du château, il chante, et pour les gens qui sont en dessous, en plus, le château, donc moi je suis allé, c'est très impressionnant quand on y est. Il est sur une sorte de colline, et donc quand on est dans le village, on se sent écrasé. C'est vraiment un espèce de bâtiment, c'est presque un temple. On dirait que les dieux habitent en haut et que les mortels sont en bas. Ouais. Et ils chantaient là-haut. Donc, il y a tout un tas d'oppositions qui font que pour les gens, et très sincèrement de leur part, mais pour les gens du village, les gens de la région, c'est sûr que c'est lui. Il a tous les défauts, c'est un démon, quoi. C'est le Parisien riche et farfelu.
Qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui ? Parce que vous avez essayé de trouver des gens qui avaient au moins une mémoire de l'histoire. Comment vous étiez accueilli vous-même ?
Alors, c'était amusant. Bon, moi, j'y suis allé. En plus, je ne suis jamais très à l'aise, je suis un peu timide, etc. Et puis je suis vraiment parisien pour le coup, donc je suis allé là-bas, je marchais sur des œufs. Donc je suis allé, alors dans le village d'Escoir, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de bistrot, mais à 1 kilomètre, dans un petit village à côté, il y a un bistrot, je rentre, un tabac, PMU, je rentre là-dedans. Le patron qui était tout seul, voyant que je n'étais pas tellement de la région, me dit « Ah, qu'est-ce que vous venez faire ? Vous êtes touriste ?» et tout. Il dit « Non, non, je viens écrire un livre », et immédiatement il me dit « Ah ! Sur le château », alors que c'était il y a 75 ans.
Et oui.
C'est-à-dire, quand il me dit ça, on aurait dit que le crime était le mois précédent.
Ouais.
Et un client rentre et il dit « Ah tiens, monsieur, viens écrire un livre sur le château », et le client dit « Ah oui, c'est le fils de la famille qui a tué tout le monde ». C'est-à-dire que, Voilà, c'est resté,
c'est
un
toujours
peu ancré, oui.
Imprimé. Oui. C'est l'empreinte du fait divers. Alors après, vous avez, vous, il vous fallait absolument, évidemment, pour réussir votre entreprise, fallait que vous pénétriez dans le château. Alors vous n'avez pas pénétré par effraction. J'ai mis du temps. Je laisse aussi les lecteurs découvrir. Mais vous avez fini par trouver le propriétaire actuel, enfin à l'époque où vous y étiez quand même, qui acceptait de vous faire visiter. Et il y a ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y avait des choses qui n'avaient pas changé du tout.
C'est un château qui a été racheté, une partie a été transformée en chambre d'hôte, enfin plus maintenant, mais ces dernières années. Mais certaines pièces du château n'ont pas été touchées du tout. En l'occurrence, par exemple, le petit salon. Alors ce qui est bien, c'est que ça, on dirait un cluedo vraiment, le petit salon, la bibliothèque, la cuisine. Le petit salon où est morte de manière atroce la tante Amélie, rien n'a changé, le parquet est le même, la cheminée est la même, des photos que moi j'ai vues dans le dossier d'instruction que j'ai étudié, zoomé, et je me retrouvais dedans, c'est quand même plus que troublant. Ouais, j'avais les jambes qui tremblaient un peu.
Comment vous avez découvert qu'il y avait une autre chambre où, avec un autre compteur électrique?
C'est pas moi qui l'ai découvert, c'est qu'en fait, en creusant, en fouillant, en allant au-delà des apparences, je me suis rendu compte dans les minutes du procès.
Dans le dossier, voilà.
Ouais, dans les minutes du procès, il y a un moment, lors du transport au château, un juré qui dit qu'est-ce que c'est que cette boîte, et on dit c'est un autre disjoncteur. Ouais.
On aurait pu couper également la lumière de là. Ouais. Parce qu'il faut dire que Garçon, il n'a pas fait que de l'esbrouf, je veux dire.
Ah non, non,
il avait un dossier extrêmement construit, quand même, une histoire de gouttes de sang sous un imperméable. Je ne peux pas rentrer dans ces détails-là, mais ils sont dans le livre et c'est ce qui rend la lecture absolument passionnante. Quand on a parlé tout à l'heure du volet, c'est un des très longs passages de votre livre.
Je m'appelle
le tunnel.
Oui. Je rentre vraiment dans les détails, j'espère que les lecteurs ne seront pas trop...
Mais non, mais vous avez... Ah ben moi, en tant que lecteur, je vous dis, vous avez parfaitement raison. Parce que c'est dans le diable et dans les détails, toujours.
En fait, moi, je me suis dit, pardon, si... Je me suis dit, Maurice Garçon, comme vous disiez tout à l'heure, était l'ami d'une des victimes. Ouais. Et je me suis dit, il a consulté le dossier, il a accepté de défendre Henri Gérard, c'est qu'il a dû trouver dans le dossier quelque chose.
Bien sûr.
Moi, j'ai eu la chance d'être le premier à consulter le dossier, puisque le délai de communicabilité venait d'expirer. Et je me suis dit, dans ce gros dossier de 1500 pages, Maurice Garçon a trouvé des petites choses qui lui ont fait penser qu'il était innocent. Et moi, j'ai trouvé vraiment des détails, des choses de rien du tout, des petites... qui peuvent laisser penser que peut-être l'acquittement était nécessaire.
Alors, nous y voilà. Henri Girard, est-il coupable? Henri Girard, est-il innocent? Vous exprimez dans le livre ces deux questions, ces deux hypothèses, et on va y venir dans un tout petit instant. Et vous nous direz, on va faire ce qu'on fait aussi dans les procès, les éléments à charge, les éléments à décharge. Mais s'il est innocent, alors ça veut dire que y a tout un autre pan d'enquête qui s'ouvre. On va en parler.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
Alors l'heure du triple crime, on devrait dire le triple crime du château d'Escouart, qui est au cœur du livre de mon invité Philippe Jaénadin, qui vient de publier aux éditions Julliard un gros roman, La Serpe, où il reprend méticuleusement toute cette affaire de meurtre, avec cette question, est-ce que Henri Girard, qui deviendra plus tard Georges Arnaud, auteur du Salaire de la peur, a-t-il commencé, ses débuts dans la vie, il avait 24 ans quand même, mais comme assassin, ou était-il totalement innocent? Innocence obtenue, acquittement obtenu en tout cas au cours du procès en 1943 par maître Maurice Garçon. Et vous parliez à l'instant, Philippe Jaénadin, de cette empreinte du fait divers qui fait que là-bas, il n'y a pas photo, quoi. C'était vraiment lui, et c'est une erreur judiciaire de ne pas l'avoir condamné. Nous, dans une émission en 2012, nous parlions donc de cette affaire, et nous avions un coup de fil avec Gérard de Villiers. Gérard de Villiers, c'est l'auteur des fameux SAS, qui connaissait Georges Arnaud, et qui nous a raconté sur l'antenne, et on va entendre un extrait de ce témoignage, qui nous raconte que Georges Arnaud lui a révélé, en Algérie, dans les années 60, bien des années après le drame du château d'Escouart, qu'il avait été l'assassin de son père, de sa tante et de la bonne.
Il était très grand, il a dit, je crois qu'il était très maigre, très roux, la poitrine creuse, et qu'il avait il faisait un petit peu peur, comme ça. Mais bon, mais on l'avait sympathisé, bien que nous soyons de bord politique absolument opposés. C'était un grand talent. Il m'a emmené me promener sur les hauteurs d'Alger. Je me souviens très bien, on avait une vue magnifique, et puis là, bon, c'était la fin de la journée, on discutait de choses autres. Et tout à coup, je lui dis, mais dis-moi, maintenant, il y a longtemps, tu peux dire la vérité, tu as tué ton père ou tu ne l'as pas tué? Et il m'a dit, j'ai tué.
Il vous a dit, j'ai tué mon père?
Oui, et il m'a expliqué d'ailleurs, grosso modo, n'oubliez pas, n'oublions pas qu'il y a plus de 40 ans, que... Vous savez, à l'époque, Georges Arnaud était un marginal de luxe,
oui, bien sûr,
qui vivait à Paris et qui venait régulièrement se refinancer chez son père.
Ouais.
Et il y avait eu une violente dispute parce que son père en avait ras-le-bol, n'avait plus voulu lui donner d'argent.
Alors on se dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est lui qui a fait le coup, quoi. Bon. Alors maintenant, on va jouer à ce jeu qui est passionnant. Est-il coupable? Est-il... innocent, qu'est-ce qui va dans le sens de la culpabilité? Ben, on les a énoncés déjà. C'est lui qui a demandé à son père de venir à Escoir. C'est lui qui a emprunté la fameuse serpe, comme vous l'avez rappelé. C'est lui qui, d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais vous en parlez dans le livre, qui a tenté d'escroquer peut-être sa tante en se faisant enlever, enfin un enlèvement bidon dans Paris par les Allemands avec une demande de rançon, etc., etc. Et voilà, quoi. Et puis, c'est lui qui était dans la chambre si loin qu'on ne pouvait rien entendre. Alors, il faut quand même ajouter qu'il a passé 19 mois, je crois, en prison avant le procès. Pendant ces 19 mois, il a toujours dit qu'il était innocent. Il n'a jamais avoué, même sous la pression des interrogatoires. Alors maintenant, je vous laisse. Qu'est-ce qui va dans le sens de l'innocence? Là, on peut reprendre des arguments de maître Maurice Garçon. D'abord, les excellents rapports qu'il avait avec son père.
Oui, ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé à ce moment-là. Et moi, j'ai trouvé dans le dossier d'instruction des lettres, toute la correspondance entre Henri Girard et son père, Georges, donc une des victimes, qui ont été saisies chez eux dans leurs appartements respectifs à ce moment-là et qui ont été depuis conservées là-dedans.
Il y avait beaucoup d'amour.
C'est incroyable. C'est-à-dire que moi, Jacques, je suis un costaud, je suis un buriné, mais j'avais les larmes aux yeux dans la salle de lecture des archives en lisant ces lettres entre tous les qui démontrent vraiment un amour, mais au-delà vraiment même d'un simple amour père-fils, c'est vraiment très très fort. Alors qu'on a dit lors du procès que voilà, il aimait surtout son père quand il ouvrait son porte-monnaie, quoi.
Ouais,
et voilà. Là déjà, moi je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis tellement d'autres choses. Il y a en fait le nombre d'indices, je ne dis pas de preuves volontairement, mais le nombre d'indices qu'il est innocent est incalculable.
Alors il y a aussi, là on revient au côté crime, les experts. Il n'y avait pas de traces de sang sur ses vêtements. S'il a tué en plus dans l'obscurité, comment aurait-il fait pour se débarrasser de ses vêtements ou les laver?
Oui, alors, aucune trace de sang sur ses vêtements ni sur son corps. Mais alors on a remarqué, le médecin qui l'a examiné le soir du crime a remarqué qu'il avait les mains, les avant-bras, le visage très propre et le reste du corps très sale, donc il se serait lavé, machin. Oui. Petit détail, quand vous dites le diable est dans les détails, il avait les ongles tout noirs et pas de sang en dessous. Donc soit il s'est lavé et il n'a pas les ongles noirs, soit il ne s'est pas lavé et il a du sang sous les ongles, évidemment, parce que ça a été un carnage. Moi, j'ai vu les photos, c'est un bain de sang. Vraiment, c'était inondé de sang.
Et si on ajoute à cela qu'on pouvait parfaitement pénétrer, certainement, dans le château, par cette fameuse fenêtre ouverte par maître Maurice Garçon, on se dit que peut-être là, il y a des éléments qui ouvrent la voie à d'autres hypothèses. Alors, on va dire une chose, je suis désolé, je ne le fais pas pour jouer avec les auditeurs, mais certains vont être frustrés, parce que lorsqu'on en arrive dans votre livre, à peu près là où nous en arrivons dans notre conversation, il reste encore, on a dit que le livre faisait presque 650 pages, bon, il reste 300 pages de bouquin, on se dit, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter? Et bien justement, le Colombo de l'écriture dans lequel s'est transformé Philippe Jaénada continue l'enquête, revisite le dossier. On dit souvent, les policiers, les gendarmes disent souvent, le coupable est dans le dossier quand il y a des affaires non résolues. Alors, Le coupable est-il dans le dossier ou pas? Pour le savoir, faut lire votre livre. Et c'est vraiment le conseil que je donne. Et vraiment, je ne le fais pas pour vous faire comme ça de la publicité. On ne se connaît pas. À part le fait qu'on a eu le plaisir de vous avoir à plusieurs reprises dans cette émission. Mais parce qu'on partage votre passion du fait divers. Vraiment, il faut lire La Serpe. C'est paru chez Julliard. Le même éditeur, effectivement, que celui du Salaire de la Peur. Merci beaucoup, Philippe.
Merci à vous, Jacques, vraiment.
Merci infiniment. Et bonne lecture à tous, parce que vraiment, ça vaut la peine. Et puis après, vous pourrez vous faire votre propre opinion, parce que vous ne tranchez pas, bien entendu. Après, on se fait l'opinion qu'on veut. Un livre, ça sert à ça aussi. L'émission est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous demain à 20h pour une nouvelle semaine de l'heure du crime.